Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Thierry Breton. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes commissaire européen en charge du marché intérieur. Vous avez aussi était ministre des Finances entre 2005 et 2007. Est-ce qu'à l'époque, lorsque vous étiez à Bercy, vous imaginiez qu'un jour, la France ait 3 100 milliards de dettes, Thierry Breton ?
Dans la mesure où j'avais baissé l'endettement de la France à ce moment-là, puisqu'on était passé de près de 65 à 62%, j'aurais évidemment souhaité que mes successeurs aillent dans ce sens. Mais ouais. Voilà, c'est la vie.
La question, c'est un déficit non anticipé à 5,5% du PIB. Là, le gouvernement avait prévu 4,9%. Est-ce que cette erreur de prévision, est-ce que le volume de la dette française, au fond, abîme la crédibilité française au niveau européen ? Est-ce que ça affaiblit la France en Europe ?
Non, mais d'abord, nous avons des engagements communs dans le cadre des traités.
On ne les respecte pas.
Ces engagements, c'est effectivement de revenir le plus vite possible sous la barre des 3%. Alors on a un peu maintenant ajusté ces engagements en fonction des situations de chaque État membre. Et donc maintenant, il faut présenter des trajectoires. Alors je rappelle que la trajectoire de la France, c'est d'être en dessous des 3% en 2027.
Moody's n'y croit pas, l'agence Moody's.
Eh bien voilà, il faut Moody's et Moody's. Il faut maintenant qu'évidemment ceux qui sont en action puissent le faire. Moi j'ai confiance dans leur capacité de le faire, mais je ne peux pas vous en dire plus, évidemment. Ce qui est très important, c'est de tenir les trajectoires. Oui, ces trajectoires, il y a des engagements, et c'est important, y compris pour notre crédibilité.
C'est vraiment la question que je posais, Thierry Breton. Est-ce qu'au final, c'est si important de tenir cette trajectoire ? Si la France ne tenait pas la trajectoire en 2027, ne serait pas en dessous des 3%. C'est la France, il ne se passera rien.
Non, mais vous avez aussi un certain nombre également de sanctions hein, qui sont prévues, parce qu'encore une fois, c'est une obligation. On est tous dans le même bateau, si je puis dire. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des divergences trop grandes entre nous. Faute de quoi, c'est l'euro qui peut être fragilisé. Donc, il faut que chacun tienne ses trajectoires.
En fait, il n'y a pas le choix, c'est ça que vous nous dites. 3% en 2027, il n'y a pas tellement le choix.
Bien sûr qu'il n'y a pas le choix d'aller dans ces directions. Et je le dis de façon très simple et très claire, pas uniquement du reste pour les téléspectateurs français. À partir du moment où on accepte d'être ensemble et de nous mettre ensemble pour être plus forts, il faut qu'on respecte les règles.
Mais Thierry Breton, quand on voit les Américains qui déversent des milliards de dollars dans leur économie, quand on voit les Chinois qui font pareil, c'est une économie administrée, est-ce qu'on se dit, on ne peut pas se poser la question de savoir si la règle des 3% n'est pas dépassée, surtout quand il va falloir financer la dépense de défense pour l'Ukraine, la transition écologique ? Non mais, est-ce que ce n'est pas une vieille règle ?
Non mais cette règle des 3%, ça veut dire quoi, Caroline Roux ? Ça veut dire rien que si on est à 3% de déficit, ça veut dire qu'on fait 100 milliards, de moins que ce qu'on gagne. On ne peut pas vivre toute la vie avec 100 milliards par an de moins que ce qu'on gagne, sauf faute de quoi, on arrive à un moment, un jour, à une situation qui est intenable. Il faut bien le dire à nos concitoyens, ces 3%, ce n'est pas tombé du ciel. C'est pas du reste, je vais même aller un tout petit peu plus loin. Une fois qu'on aura fait 3%, il faudra aller encore plus loin parce que on ne peut pas vivre en permanence avec un déficit par rapport à nos rentrées.
Il faut aller à zéro déficit.
Mais c'est l'objectif pour tout le monde.
Dans un contexte, Thierry Breton, encore une fois, où il va falloir faire des investissements massifs.
Alors, c'est le
par exemple
point.
Sur l'Ukraine.
Alors,
sur
c'est
la
le deuxième point. Je suis de ceux qui poussent beaucoup pour, et je crois que le président de la République va dans ce sens, évidemment, pour avoir des capacités d'investir ensemble. Un peu comme on l'a fait du reste, vous vous souvenez, oui. À la suite des conséquences du Covid, où on s'est mis ensemble et on a réussi.
On emprunte à 27.
Oui, bien sûr, on emprunte à 27 et on est donc plus fort ensemble. Et puis surtout, on fait en sorte que chacun puisse à la fois en bénéficier et également payer sa quote-part. Si je dis ça, c'est que c'est très important pour pouvoir maintenir, je dirais, l'intégrité aussi de notre marché intérieur et ne pas avoir de différence entre nous.
Mmh. Vous avez déclaré dans le Figaro, il n'y a pas très longtemps, au regard du cours de l'histoire, ces élections européennes sont sans doute les plus importantes depuis longtemps. Pourquoi cette fois-ci, plus que les élections de 2019 ? Parce que la guerre en Ukraine ?
Je le crois profondément, Caroline Roux, profondément. Pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, c'est la situation géopolitique mondiale. Bien sûr, vous venez de le rappeler à l'instant, ce qui se passe en Ukraine, on sait que ce qui se passe en Ukraine, c'est évidemment l'Europe qui est visée. Je crois que plus personne n'est dupe. Vladimir Poutine n'aime pas le projet européen. Il fait tout pour le détruire, et depuis longtemps, il veut le détruire. Et donc, l'Ukraine est un premier pas, on le sait tous. Donc le fait de donner à l'Ukraine la capacité de se défendre, c'est existentiel pour nous. Mais c'est pas tout. Ça, c'est le front Ouest. Sur le front Ouest, on a les États-Unis. Les États-Unis, on va voir ce qui se passe dans quelques mois pour les élections américaines. On sait qu'en fonction du choix des électeurs américains, il peut y avoir effectivement une vision différente des relations avec les États-Unis. On se souvient de Make America Great Again, de Donald Trump. Donc là, il faut aussi qu'on soit plus autonome, tout simplement pour pouvoir être plus fort, y compris dans nos partenariats. Il y a la Chine, où effectivement maintenant, on voit que la Chine se renferme un peu plus sur elle-même. Elle parle beaucoup plus de sécurité d'économie. Et là aussi, il faut pouvoir peser. Et puis, il y a le Sud global, et le Sud global qu'on appelle le Sud global, où il faut aussi que l'Europe pèse davantage. Donc, il faut qu'on prenne conscience de cela, et que c'est ensemble, je dis bien ensemble, qu'on sera plus fort pour pouvoir exercer, et je le dis très clairement, les rapports de force qu'il convient avec ceux qui, autour de nous, Caroline Roux, ne sont pas que nos amis.
Le problème, c'est que vous avez cité la Chine, vous avez cité les États-Unis. Je vous parlerai de l'Allemagne. On n'a pas du tout la même vision de cette nouvelle reconstruction du monde avec les Allemands.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes un continent. Et évidemment, on a nos histoires, on a nos traditions, on a notre culture, mais nous sommes un continent. Et voyez-vous, depuis maintenant bientôt 5 ans que je suis commissaire, on a réussi à avancer sur tous les dossiers. Est-ce que c'est facile ?
Non.
Mais est-ce qu'on y arrive ? Oui. Mm. Mais je le redis, on est une démocratie continentale. C'est grand un continent. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'ils arrivent à la faire fonctionner leur démocratie ? Non. Elle est bloquée. Et que dirons-nous si jamais on était comme aux États-Unis, où il n'y a plus une loi qui est possible d'être votée, parce que le Sénat est en opposition avec la Chambre des représentants ? Eh bien, nous, vous voyez, bien qu'on soit 27, bien qu'on ait nos différences, c'est aussi notre force, on y arrive.
Mais vous voyez, quand vous dites, au regard du cours de l'histoire, ces élections sont les plus importantes depuis longtemps. Et puis quand on regarde les sondages, on voit que la réponse que les Français et de nombreux pays européens sont enclins à donner à la veille de ces élections, c'est d'envoyer un score assez favorable, même très favorable, notamment aux populistes, avec une vague conservatrice, pour ne pas dire nationaliste en Europe. Jordan Bardella caracole en tête des sondages, c'est le cas dans d'autres pays européens. Une vague populiste, c'est ça la réponse ?
Alors, je le vois, évidemment, et pas uniquement qu'en Europe. Lorsque on est face à la complexité du monde, et à la complexité aussi de se mettre ensemble pour avancer ensemble sur des valeurs que nous partageons ensemble. C'est compliqué, c'est difficile. Et lorsque c'est trop compliqué, souvent, pour certains leaders et certains partis, le simplisme prend le dessus et on regarde plutôt dans le rétroviseur en disant « c'était tellement mieux avant ». Donc allons promettre un avant à nos électeurs, plutôt qu'un après ensemble. C'est vrai que c'est difficile. Alors il y a ceux, encore une fois, qui regardent dans le rétroviseur, et puis il y a ceux qui essaient de dire comment on va avancer ensemble. Moi, je fais partie de
ça. Est-ce que cette vague de populistes n'est pas une réponse à une Europe qui parfois, je ne sais pas, fait des erreurs, n'a pas pris les bonnes directions ?
Mais l'Europe, encore une fois, c'est un continent, et un continent qui est régi par une démocratie continentale. On va du reste aller voter pour notre démocratie. Oui, bien sûr, on peut faire des erreurs, mais on les corrige aussi assez vite.
Vous allez vous engager dans cette campagne ?
Bien sûr, je suis là ce soir aussi pour ça.
Je voudrais juste qu'on termine en parlant d'une entreprise que vous connaissez très, très bien, Atos. Là aussi, on parlait de déficit et de dette. C'est une entreprise et c'est un fleuron de la cybersécurité qui va très mal. 3,4 milliards d'euros de pertes nettes. Vous avez dirigé cette entreprise de 2008 à 2019. J'ai vu que vous aviez dit quand vous étiez parti, c'était une entreprise qui allait bien.
Très bien.
La question qui est posée aujourd'hui, faut-il que l'État français vole au secours d'Atos ?
Écoutez, lorsque j'ai quitté Atos, ça fait maintenant 5 ans, c'était une entreprise, et même un an après, même encore mieux, un an après que je l'ai quittée, c'est une entreprise qui n'avait pas de dette, c'est une entreprise qui était leader en cybersécurité, dans les supercalculateurs, dans le cloud. Et puis il y a eu des choix malheureux qui ont été faits, je le dis clairement, mais je ne vais pas les commenter. Il y a eu 5 directeurs généraux qui se sont succédés en 3 ans. Bon, j'ai l'impression que tout ça maintenant va mieux, et en tout cas je souhaite vivement à ce que cette entreprise...
Ça ne va pas mieux du tout. Hein.
J'ai l'impression en tout cas que l'équipe actuelle prend des bonnes décisions.
Pas besoin de l'État.
Mais je pense qu'avec une bonne équipe, il y a des hommes et des femmes qui sont tellement motivés, tellement compétents, que je pense qu'on pourra avoir confiance en eux.
Bon, merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été mon invité. On va revenir sur les annonces de Gabriel Attal. Il est confronté à ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire le dérapage des déficits et une dette abyssale de la France. Et il a annoncé certaines pistes et certaines lignes rouges. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.